Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR, le pire reste à venir. Le pire est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes, pardon. Et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Ce matin, on va voyager. Puisque nous écouterons très rapidement dans cette émission un sujet réalisé au Népal par une de nos bénévoles, une bénévole de Verneuil-sur-Avre avec qui, vous savez, nous sommes maqués, nous faisons régulièrement de la radio. Voilà, elle nous fera écouter notamment les sons que les ados écoutent au Népal, en tout cas ceux qu'elle a rencontrés. On voyagera également avec vous, Samuel, bonjour.
Oui, on va voyager avec moi si tu veux.
Voilà, on voyagera dans le monde imaginaire du cinéma, comme chaque mardi avec vous, pour parler des sorties de la semaine.
Oui, il y en a pas mal cette semaine d'ailleurs. Voilà.
Beaucoup de matière.
Il y aura beaucoup de choix.
Parfait. Et puis, nous voyagerons également avec Julien, François, Maxime et Emeline. Certains d'entre eux partent faire un tour en mobylette ce week-end. Ils partent jusqu'en Bretagne. Ça part, je crois, il me semble, samedi. J'ai cru comprendre. Bonjour à vous, en tout cas. Bienvenue. N'hésitez pas à vous rapprocher des micros. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, ils sont venus en force. Ils sont venus de Rouen. Ils étaient là très tôt ce matin. C'est parfait. On va avoir, évidemment, le temps de discuter avec vous. Et puis, on diffusera évidemment un petit peu de musique histoire d'aérer tout ça, et le tout sera animé, en tout cas on l'espère, dans la joie et la bonne humeur.
C'est
et même,
sûr,
et
c'est
même
sûr.
L'allégresse carrément.
Ah oui.
J'ose tout moi ce matin.
Allez.
On va pour se dire bonjour s'écouter un premier titre de musique, The Stereos. Le morceau s'appelle Stereo Freeze. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
I said, what?
The Stereos, c'est la soul de Chicago ce matin dans les studios. Et le morceau s'appelle Stereo Freeze.
Oh bah c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et nous partons tout de suite au Népal avec Anaïs. Vous pouvez retrouver ses aventures sur Balado Mundo. Il y a un blog et un Facebook qui s'appelle Foule le Monde. Je vous laisse écouter ça. Petit côté relaxation.
À l'autre bout du monde, dans cette contrée inconnue, des visages, des odeurs, des sons, parfois connus, parfois nouveaux, mais toujours avec une touche d'exotisme. Partons ensemble à la découverte de ce monde sonore, récoltons les sons du monde, tout comme ces randonneurs qui s'orientent grâce aux cairns de pierre. Trouvons notre voie grâce au son. Balado Mundo vous transporte, un aller-retour vers l'inconnu. Namasté les amis, voici donc la première de Balado Mundo, une émission faite aux quatre coins du monde pour les voyageurs, pour ceux qui veulent s'évader depuis leur fauteuil, ou encore pour tous les curieux. Au cours de cette balade culturelle, nous allons récolter différents sons népalais pour construire notre cairn de sons. Dans un premier temps, nous avons rendez-vous avec des enfants népalais qui nous feront partager leurs rêves. Ensuite, nous partirons à la rencontre de Dev et Dana qui ont créé et font vivre l'ONG Fresh Népal. Ils m'ont accueilli pendant 3 semaines au sein de leur orphelinat. Tout cela sera bien entendu ponctué par des nouveautés musicales, empruntées aux ados de Fresh Népal, ainsi que par des découvertes sonores typiques d'ici. Alors, bonne écoute à vous! Au sein de cet orphelinat, il y a maintenant beaucoup d'adolescents. Chacun a sa clé USB pleine de musique. Je vous présente donc une petite sélection de ce qu'un ado népalais écoute en ce moment. C'est complètement fou, il y a tout en fait. Enfin, pour la chanson française, il faudra repasser quand même. Non mais sérieusement, ils écoutent beaucoup de musique internationale, les English songs, comme ils disent ici. Ce n'est pas forcément originaire d'Angleterre, mais en tout cas, c'est chanté en anglais. De Madonna à Justin Bieber, ici, il n'y a qu'un pas. Et puis, il y a de la musique indienne, avec beaucoup de chansons du genre Bollywood. Mais on peut aussi trouver un peu du hip-hop indien.
शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चर है सुपर हिट पिक्चरों का यो एक्स फैक्टर ये मैं नहीं कहता वो खुद यही मानते कोयले की खान में हीरे को पहचानते मिडिल क्लास बॉय आज सुपर स्टार है चार्टर में घूमे और चार बड़ी कार है इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप बेटे इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप
Hip-hop.
Et surtout, beaucoup, beaucoup de remix à faire pâlir nos meilleurs DJ.
म्यूजिक लगाए महफिल जमाए दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी वो क्या छोरा हो क्या छोरी हो से एवरीबॉडी से वो है हम
भी ici ils adorent les love songs tout comme les séries télé indiennes Cucu à souhait, un peu du genre Les Feux de l'amour, mais avec beaucoup d'humour. Il y a de la musique népalaise, avec des chansons qui me font penser à de la country.
कस्तो दरके पानी पर्यो भिजे रमो छुर भए तिमी सँगै ओछ लागि आफ्नो गाडी पर्खी रहे भिजे छु आज मो रहरले सबै गाडी चढ्न थाल्यो कमान्डरको हरन सुनि कालेबुङ टु सिलिगुडी हन तिमी कस्तो निष्ठुरी चढेर गयो कतातिर छाडी राख्यो मलाई यतैतिर तिमी जाने सिलगुडी म जाने सिक्किमतिर
Ou bien entendu, de la musique traditionnelle, qui est très écoutée ici, même par les plus jeunes. Il y a des inclassables, comme ceci.
जरा इतर गिरा दो gulabo zara itar gira do
se dire au revoir, c'était Balado Mundo au Népal, une première, mais qui en appelle d'autres. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans un mois ou un peu plus tard pour la fin de mes aventures au Népal et une nouvelle destination. See you later, sister!
Voilà, c'était un sujet réalisé par Anaïs, partie faire le tour du monde et notamment une première escale au Népal. Moi, ce qui me rassure...
Est-ce qu'elle prend de la drogue, Anaïs ?
Non, je ne crois pas. Non. Je pense que c'est quelqu'un de très sérieux.
D'accord.
Ce qui me rassure, moi, c'est que les ados français avec qui on travaille régulièrement...
On le même goût de chiottes.
Voilà, sur les ados de chiottes, je ne sais pas, mais en tout cas, on des goûts similaires en termes de musique. Que les ados du Népal, et ça me rassure quelque part. Vous pouvez suivre les aventures d'Anaïs sur un Facebook et un blog qui s'appelle Foule le Monde, où il y a différentes infos sur les voyages et les escales qu'elle fait dans le cadre de ce tour du monde. Samuel,
oui.
Avec vous, on continue de voyager, je le disais. On va parler cinéma.
Oui.
Avec les sorties et les événements au cinéma d'Evreux cette semaine.
Pas mal de sorties cette semaine, donc va falloir faire le choix. On va commencer par le blockbuster de la semaine qui s'appelle Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts avec Samuel L. Jackson. Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventure au cœur d'une île inconnue dans le Pacifique. Aussi belle que dangereuse, mais ils ne savent pas qu'ils viennent de pénétrer dans le territoire de Kong. On est dans une énième version du mythe de King Kong. Mais alors celui-ci, il déconne pas. Hein. Il fait 30 mètres de haut. C'est plus on est dans les versions asiatiques façon Godzilla, vous voyez. Parce que celui de Peter Jackson, il faisait 7 mètres. C'est juste pour dire. Lui, il fait 30 mètres.
Oh, le nul.
Voilà, c'est une série B totalement assumée. Avec des scènes d'action démentes, mais aussi un côté très ironique et comédie qui va surprendre sûrement certains qui vont s'attendre à vraiment un film d'action. Mais c'est aussi drôle et peut-être, voilà, c'est d'ironie aussi, donc c'est assumé. Ça s'appelle Kong. Allez revoir le nouveau King Kong. Puis après, nous avons Les Figures de l'Ombre, un film américain aussi de Theodore Melfi avec Octavia Spencer. C'est l'histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson qui sont les cerveaux derrière le premier voyage spatial des Américains qui ont permis à John Glenn de découvrir l'espace. Et c'est elles qui travaillaient pour la NASA et qui ont donc permis à l'astronaute de réaliser son premier vol en orbite. C'est la petite histoire qui dépasse un peu la grande. C'est-à-dire que c'est un film qui permet, grâce à un sujet plus particulier, la conquête spatiale, d'aborder un sujet plus délicat aux États-Unis dans les années 60, le racisme évidemment avec des personnes afro-américaines, et voilà, c'était la réussite de certaines personnes qui étaient cachées parce qu'elles n'avaient pas vraiment le profil qui était le bon entre guillemets pour les Américains. Donc voilà, c'est une histoire plutôt intéressante de découvrir ces trois femmes qui ont vraiment existé, une histoire qui nous Français nous parle pas vraiment, mais en tout cas, le thème en question, évidemment, mais cette histoire-là, voilà, donc ça s'appelle Les Figures de l'Ombre, ce qui permet de découvrir un petit pan de l'histoire américaine aussi. Puis après, nous avons 4 films français. Voilà. Des fois, on dit que les sorties cinéma sont pas très bien agencées. Là, ils vont se battre entre eux, là, entre guillemets. On va commencer par De plus belle de Anne-Gaëlle Daval avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz. Alors, Lucie, elle est guérie de sa maladie. Est presque lointain souvenir, excusez-moi. Sa famille la pousse à aller de l'avant, à vivre et voir du monde. Et c'est ainsi qu'elle rencontre Clovis, un homme charmant, charmeur et surtout très arrogant, mais qui aime bien la façon d'être de cette jeune femme qui est plutôt, grâce à sa maladie, très très franche. Et du coup, il va tomber sous son charme. Donc, on est dans une comédie romantique, mais avec un fond délicat, le cancer. Et forcément, Foresti, une humoriste qui joue un rôle dramatique, on va encore faire des comparaisons avec, par exemple, Coluche, Ciao Pantin ou Galabru, plus loin, Le Juge et l'Assassin. Souvent, on fait ça quand des humoristes font des contre-emplois. On dit, voilà, c'est leur rôle de... Voilà. Mais peut-être qu'ils peuvent faire que de la comédie. Mais en tout cas, la Foresti s'en sort plutôt bien. Et le duo avec Kassovitz marche pas mal. Et on peut aussi découvrir le film pour la première réalisation de Anne-Gaëlle Daval, qui est plus connue dans le cinéma pour faire des costumes. C'est quelqu'un de très réputé à ce niveau-là, mais qui se lance enfin dans la réalisation. Ça s'appelle De plus belle. Plus après, nous avons La confession de Nicolas Boukrieff. Alors Boukrieff, il revient au cinéma après, la polémique. Il n'avait pas fait exprès, mais c'est lui qui avait réalisé Made in France il y a quelques temps et qui avait carrément disparu du cinéma, qui n'était pas sorti à cause des attentats en France, puisque lui avait fait une affiche avec la Tour Eiffel et une Kalachnikov juste à côté, donc forcément c'était pas très bienvenu. Donc son film avait été carrément squeezé des salles. Là il revient avec un thème complètement différent, un film qui s'appelle donc La Confession avec Romain Duris et Marine Wacht. C'est sous l'occupation allemande dans une petite ville française, un prêtre arrive dans ce village et il attire plutôt les convoitises des jeunes filles et des jeunes femmes athées, on va dire. Et donc il y en a une, communiste et athée et bien revendicative, qui va décider d'aller à l'église juste pour le faire craquer, entre guillemets. C'est une adaptation d'un bouquin de Béatrice Beck qui avait déjà été adapté au cinéma dans les années 60 par Monsieur Melville avec un acteur un peu connu qui s'appelait Belmondo. Et donc voilà, c'est une nouvelle adaptation. C'est le premier film en costume de Boukrieff qui est plus habitué au polar. Et donc, voilà, par exemple, il avait fait pas mal de scénarios avec Kassovitz, entre autres. Donc voilà, Boukrieff qui revient au cinéma en tant que réalisateur, c'est plutôt intéressant. Et Duris dans un rôle où il va forcément avoir la comparaison avec Belmondo, pour ceux qui ont vu le film, les plus anciens, on va dire. Donc ça s'appelle La Confession. Puis après, nous avons Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, avec Nicolas Bedos et Doria Tellier. C'est l'histoire d'un couple sur 45 ans, entre amour et trahison, amour et ambition, par exemple, trahison et secret, et comment ce couple va vivre et comment ils ont pu se supporter. Et nous, on va les suivre dans la petite et la grande histoire pendant 45 ans. Donc c'est une comédie romantique à la sauce Bedos. Pour ceux qui sont un peu plus critiques, on va dire à la sauce Bobo, parce que voilà, Bedos a... Voilà, c'est un personnage qui la raconte un peu, il le dit lui-même, il est un peu prétentieux. Et donc, ne serait-ce que dans la bande-annonce, on voit un peu le ton qu'il a pu y donner. Et même s'ils ne sont pas mariés et en couple depuis 45 ans, forcément, on va faire la comparaison avec leur couple dans la vie, puisque le roi des commérages, Doria Tellier et Nicolas Bedos sont ensemble. Donc forcément, ce n'est pas une autofiction, mais il a avoué lui-même avoir pris un peu l'inspiration de sa vie. Donc voilà, pour ceux qui aiment Bedos et Doria Tellier, pourquoi pas. C'est une comédie romantique, en tout cas, qui va changer de façon de faire par rapport à d'autres. Puis après, nous avons le film français, la comédie française qui risque de plutôt bien marcher, qui s'appelle Babyphone, d'Olivier Casas avec Mehdi Sédoun et Anne-Marie Vin. Anne-Marie Vin, celle qui avait joué dans Bienvenue chez les Ch'tis, entre autres. Donc au détour d'un dîner, les révélations faites à travers un babyphone, c'est plutôt bien vu, d'une chambre d'enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d'une famille et au sein d'un groupe d'amis. Donc c'est adapté d'un court-métrage réalisé par le même réalisateur en 2014 et il a voulu un peu étirer le concept pour en faire un long-métrage tout en gardant l'idée du huis clos. Tout se passe dans une même maison, voire dans deux pièces différentes, la chambre où il y a le babyphone et la salle à manger où les convives vont entendre ce que les autres disent à leur encontre et à leur critique. Donc c'est plutôt bien vu. Et c'est une comédie un peu façon Le Prénom, pour ceux qui se souviennent de ce film avec Bruel et Charles Berling. C'est un peu du théâtre filmé, on va dire. mais on essaie de sortir de là. Et le réalisateur a aussi une grande référence qui s'appelle Un air de famille de Clapiche il y a quelques années, avec une comédie avec des thèmes un peu plus sérieux. Donc voilà, ça s'appelle Babyphone. Donc vous avez vraiment le choix cette semaine. Allez voir soit King Kong, soit Babyphone. Ça peut être... on passe vraiment... c'est éclectique. Puis après, nous avons le Ciné Plus, un magnifique documentaire pour les fans de cinéma. Ça s'appelle Lumière, l'aventure commence, de Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, c'est l'un des gars qui participe au Festival de Cannes. C'est l'histoire des frères Lumière qui ont évidemment tout inventé dans le cinéma. Et donc, on retrouve des images absolument magnifiques. Et on va voir qu'ils ont inventé le travelling, les trucages. Ils ont tout fait. Et c'est d'un chef-d'œuvre. On revoit des images de chefs-d'œuvre mondialement connus, comme l'arrivée en gare à la Ciotat, quelque chose comme ça, je crois. Ou alors des pépites sortant de nulle part. C'est passionnant de bout en bout. C'est émouvant. C'est indispensable pour les fans de cinéma et pour ceux qui étudient un peu le cinéma. Un saut en arrière qui permet de prendre un peu de recul sur. Sur l'histoire tout simplement, hein, parce que voilà, grâce au cinéma, grâce à ces images, on voit aussi l'histoire tout court. Voilà, c'est un montage d'images étourdissant. Donc vraiment, le Ciné Plus à ne pas rater cette semaine. Je vous rappelle les horaires, hein, si vous pouvez aller sur les sites qui vont bien pour le Ciné Plus, c'est le jeudi, le lundi, le dimanche, ça dépend quelquefois, donc n'hésitez pas. Et les derniers événements, samedi soir, comme on en parle souvent, vous pouvez voir l'opéra en direct de New York. Donc vous achetez une place, vous êtes dans une salle de cinéma et à l'écran vous êtes en direct de New York pour l'opéra, cette fois-ci s'appelle La Traviata. Donc ça vous permet d'avoir pour le moindre prix par rapport à l'opéra bien sûr, un peu plus cher qu'une place de cinéma. Et voilà, donc organiser le Ciné Plus. Et mardi prochain, pour ceux qui sont fans de Gérard Jugnot, il vient présenter à Évreux au cinéma son nouveau film, ça s'appelle C'est beau la vie quand on y pense. Je peux rien en dire puisque je l'ai pas vu, donc je ne dis rien. Mais c'est en tout cas pour ceux qui aiment Gérard Jugnot, c'est une nouvelle comédie, à la Gérard Jugnot. Il viendra débattre avec les gens à l'issue du film. Voilà pour cette semaine en tout cas.
Merci.
De rien.
Merci Samuel. Qu'est-ce que je veux dire? La Traviata, vous en parliez.
Ouais.
Ça jouait dans le cadre de la programmation du Tangramme Scène Nationale la semaine passée du côté de Moulins. De Louviers.
D'accord.
J'y étais, laissé traîner mon enregistreur. Je vous propose, vous m'avez fait une transition toute trouvée,
d'en
écouter un extrait.
Tu vois.
Merci à vous,
Samuel.
On vous retrouve la semaine prochaine.
On va essayer.
Pour les nouvelles sorties, vous aurez récupéré votre cahier.
Ouais, je savais pas comment j'allais faire.
Mais vous avez très bien fait ce matin. Merci encore à vous, Samuel. On écoute un extrait de La Traviata. Vous méritez un meilleur avenir, c'est le sous-titre de la pièce. D'après La Traviata de Giuseppe Verdi, bien évidemment. Thank you. Un extrait de la Traviata, vous méritez un meilleur avenir, c'est le sous-titre, d'après la Traviata de Giuseppe Verdi. Et je ne l'avais pas dit, c'était mise en scène par Benjamin Lazare. C'était capté la semaine passée, mardi dernier, du côté du Théâtre du Grand Forum, dans le cadre de la programmation du Tangram, la scène nationale. Ce soir d'ailleurs, si vous êtes du côté de Louviers et que vous voulez aller au Théâtre du Grand Forum, il y a le spectacle La Marche des Enfants par le collectif Le Cas. C'est toujours proposé par le Tangram et la scène nationale Évreux-Louviers, enfin c'est comme ça que ça s'appelait auparavant, la marche des enfants du collectif Le Cas. On en avait parlé il y a un mois, quelque chose comme ça. On avait eu au téléphone le metteur en scène Simon Falguière, puisque ça jouait déjà dans le coin, ça jouait du côté de du grand ou du petit Quevilly, je ne sais plus, j'ai un trou. Vous pouvez toujours retrouver cet échange en podcast. Jingle et nous accueillons nos invités.
Le pire reste à venir tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
C'est bien nous. Et nous sommes en compagnie de Julien, François, Maxime. Emeline est un peu en retrait, mais elle peut évidemment se rapprocher du micro si elle le désire. Avec vous, on va parler d'un tour en mobylette que vous entamez ce week-end. Si j'ai bien saisi, vous partez en Bretagne. Rebonjour à vous, Julien, salut. François et Maxime. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? C'est quoi le concept? C'est quoi cette envie? D'où ça vous vient d'aller vous balader du côté de nos voisins bretons en mobylette?
D'un coup de tête, avant tout.
D'un coup de tête et d'un rêve de gosse, en fait, à la base. Ouais, c'est ça, c'est plus un truc qu'on a envie de faire depuis un petit moment déjà, que ce soit en mobylette ou autrement d'ailleurs. Et c'est le genre de choses qu'on repousse un petit peu sans cesse parce qu'on n'a pas le temps, parce que la vie fait que. Et là, c'était possible, donc on a décidé de le faire. Et de partager tout ça un peu sur les réseaux sociaux. Et ça a pris une ampleur un petit peu plus ample que prévu. Voilà, ouais, c'est le principe à la base.
Ouais, c'est ça. Bah, à la base, on devait partir en Saab 9-3 vers Pomme décapotable. Puis on s'est rendu compte que...
qu'on n'avait pas les moyens.
Au vu de notre taf, c'était pas possible. Donc on s'est rabattu sur les mobylettes.
Et du coup, vous partez avec une mobylette chacun ou une mobylette pour deux?
Chacun, ce sera bien déjà, ouais.
Et alors concrètement, vous allez où? Vous partez d'où? Pour aller où? Comment vous revenez? Est-ce que vous revenez aussi en mobylette? Enfin voilà, un petit peu l'itinéraire et le trajet que vous avez prévu de faire en tout cas. Et en combien de temps vous avez prévu de le faire?
Alors normalement, en une semaine, on aura fait l'aller-retour. Donc jusqu'à Lorient, on part de Gravigny.
Donc à côté d'Évreux.
Exactement, on va jusqu'à Lorient, voir après si on pousse alors, pas un peu vers Quiberon.
En faisant 2-3 détours parce qu'on va passer sur toute la côte normande. Histoire de voir du pays en même temps, hein. Et puis du coup, comme on le partage, de faire voir des endroits assez sympas aux gens, et puis même pour nous de toute façon.
Combien de kilomètres prévus par jour? C'est un peu comme une étape du Tour de France, enfin, en ce moment il y a le Paris-Nice, là je suivais ça à la radio. Combien de bornes vous allez faire en mob par jour?
Ça va être du 150-200 bornes, de toute façon on ne peut pas faire beaucoup plus, parce que les mobylettes auront mal et nous aussi.
Ça doit revenir super cher, non, en carburant, hein. Je sais pas, je me rends pas compte.
On vous dira ça dans une semaine.
Ouais. La facture va être salée au retour, quoi. Est-ce qu'il y a une assistance qui est prévue si jamais il y a une panne sur la mob? Comment vous faites?
On a des pièces, des outils et de l'huile de coude.
C'est ça.
C'est ça, vous faites tout vous-même?
Ouais. On a quasiment tout prévu. Il y a quelques pannes qui pourraient nous arrêter, mais bon, dans ce cas-là, on essaiera de trouver un revendeur de cyclo ou quoi, qui a des pièces peut-être pour pouvoir s'arranger.
Vous n'avez pas prévu la voiture, justement je parlais du Tour de France ou du Paris-Nice, c'est la voiture balai ou la voiture du technicien là derrière, le chef d'équipe qui arrive et qui dit oh, « Attends, c'est bon, t'as déraillé, bah t'en fais pas, je m'en occupe, ah, j'ai même un vélo de secours ». Vous n'avez pas quelqu'un qui vous suit en bagnole avec des mobs de secours sur le toit, non?
Et non, aucune assistance, on aura juste une assistance numérique, Maxime, du coup, qui gérera la page, nous, quand on n'aura pas trop le temps, qu'on sera sur la route, qu'on n'aura pas de réseau ou pas de batterie. Mais sinon, pour le reste, côté mécanique et tout, on se débrouille.
Ouais, c'est ça, on va pouvoir retrouver vos aventures sur Internet, sur quoi on peut suivre
Sur Facebook.
Sur Facebook, ouais. On tape quoi?
MobTrip, MOB, TRIP, dans la barre de recherche, et normalement...
Normalement, il y a bon.
Et donc là, vous avez prévu de mettre quoi dessus? Des photos, des commentaires?
C'est ça, ouais. Tous les jours, de tenir les gens informés de où on est, de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive, des galères, des rencontres, tout ça, avec des photos, des vidéos, des petits textes.
Et le soir, on essaiera de faire des lives sur Facebook.
Ah oui, les Facebook lives. Je découvre ça, là, moi, ces derniers temps. Genre.
Ça peut être sympa d'échanger un petit peu avec les gens en direct, s'ils ont des questions, s'ils ont juste envie de nous encourager, si on est sous la pluie.
Oui, c'est vrai que vous partez pas forcément au meilleur moment de l'année.
Non.
Mais en même temps, c'était, ça faisait partie du trip d'être sous la flotte énormande et bretonne.
Alors, on pourrait dire qu'on est super courageux, mais on n'avait pas vraiment le choix. Professionnellement parlant, parce que mon ami Roulio est saisonnier, et du coup, bah après, faut bien bosser. Hein. Il y a la vie qui continue quand même. Il y a pas que la
meuble. On est robuste.
Oui. Et puis non, bah, si on le faisait pas là, on ne l'aurait jamais fait. Ça aurait été dommage, quoi.
Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait éventuellement un appel aux commerçants que vous lanciez. Je sais pas si je dis pas une bêtise. Non, ça a l'air d'être bon. C'est quoi l'idée? Vous avez besoin de quoi? Et enfin voilà, comment on peut contribuer à vous mettre en relation avec les commerçants si c'est ces personnes-là dont vous pensez avoir besoin?
Alors nous, au niveau des commerçants, on leur demande pas d'argent en fait. C'est pas le but. S'ils peuvent nous fournir quelque chose qui va nous être utile pendant le périple, c'est très bien. Et nous, en échange, on essaie de les mettre en avant sur notre page Facebook. C'est entre guillemets de l'entraide. Donc ça leur fait une com sans qu'ils aient le moindre argent à dépenser. C'est un peu ça le but. Ouais.
Ok, donc l'idée c'est d'échanger un peu de communication au travers de ce trip-là et eux qui vous fournissent un peu de matériel dont vous pourriez avoir besoin. Comment, s'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent éventuellement, il faut qu'ils aillent sur le Facebook, si tu veux bien nous le redonner pour vous contacter, ou il y a un autre moyen, une adresse mail, un numéro, je ne sais pas.
Non, ce sera sur le Facebook, ouais. Donc MobTrip, MOB'TRIP, et puis ils nous envoient ça en message perso.
Voilà, ça peut être n'importe quoi. Nous, à la base, on démarchait les commerçants, disons ceux qu'on aime bien, enfin qui nous touchent, entre guillemets, et juste pour leur faire un petit peu de pub gratuite, quoi, un petit visuel, on colle un sticker sur la mob ou quoi, parce que ça fait plaisir. Puis on se rend compte que du coup, il y en a quand même qui veulent donner quelque chose.
Ouais, pas beaucoup, ça a eu du mal à prendre quand même.
Les gens ont une certaine appréhension. Qu'on leur demande pas, par exemple, d'argent pour les pubs. Alors que nous, le but n'est pas du tout pécunier, donc les gens sont surpris et assez sceptiques, ne comprennent pas, nous, ce que ça nous apporte de faire ça.
Est-ce qu'on oublie quelque chose d'important quant à ce mob trip qui vous conduira jusqu'à Lorient à partir de ce samedi, c'est ça hein, partez de Gravigny à côté d'Evreux. Est-ce qu'on aurait oublié d'évoquer quelque chose d'important quant à votre périple en mobylette?
Dire que peut-être on part en bivouac, donc ça risque d'être un petit peu hardcore avec le temps qu'il fait en ce moment. On prévoit de se laver dans les rivières, de faire caca derrière les buissons, tout ça.
C'est un vrai retour.
Le retour, ça. Ouais. Un côté totalement naturel, mis à part le sans-plomb dans le réservoir. Et pareil, on n'emmène pas de nourriture, ou alors très peu. En fait, on va faire appel à la générosité des commerçants qui ont prévu peut-être de jeter de la nourriture le soir parce que le lendemain, elle est périmée, elle n'est plus vendable. Donc d'aller démarcher, savoir si nous on peut récupérer un petit bout de barbac, un petit bout de pain pour se faire notre popote le soir et éviter un petit peu le gaspillage. Et aussi, peut-être, si ça marche, montrer aux gens que c'est possible et qu'on peut compter sur la générosité des gens.
En espérant que ces gens-là vous nourrissent quand même, parce que si vous mourrez de faim, ça va être plus compliqué le lendemain pour repartir en mobylette.
Ouais.
Très bien. Est-ce que autre chose éventuellement qu'on aurait oublié?
Des personnes qui nous suivent sur Facebook éventuellement veulent qu'on passe les voir, prendre un café, voire plus un calva ou autre.
Ou une douche.
Ou une douche, ouais. Ça fait du bien parce qu'on va sentir la boucane. Ça pourrait être super cool.
Ouais.
Donc Mob Trip sur Facebook pour vous retrouver et vous contacter et entre guillemets venir en aide ou en tout cas contribuer à ce périple.
Et également faire l'itinéraire du retour parce qu'en fait on a prévu un itinéraire pour l'aller, donc qui passe d'abord par Honfleur, les côtes normandes jusqu'à Romanche, Granville, Baie du Mont-Saint-Michel, Forêt de Brocéliande et Lorient. Et pour le trajet du retour, on n'a pas prévu d'itinéraire précis. Donc justement, c'est là qu'on fait appel aux gens, savoir s'ils veulent qu'on passe les voir, si c'est à peu près sur le trajet, on ira. Et on leur demande de nous aider à faire le trajet, tout simplement.
Très bien. Et eh ben merci à vous Julien, François, Maxime, Emeline pour ce trip en mobylette. On vous souhaite évidemment un bon courage, que ça se passe bien, qu'il y ait pas trop de d'avaries, que le temps soit avec vous. Ça c'est pas gagné, mais on peut toujours rêver. Le crachin breton. Vous allez pouvoir faire une comparaison entre le crachin normand et le crachin breton, savoir lequel est le plus dru, le plus droit. Est-ce qu'il y en a un qui tombe vers la droite, vers la gauche? Enfin voilà.
On vous fera un petit rappel,
une petite étude comparative.
On vous tient au courant là-dessus, pas de problème.
En cette saison. Merci à vous. On vous suit sur Mob Trip, sur le Facebook, qui va bien. On repart en musique avec des artistes, un classique. En tout cas, les artistes sont eux très connus. Le morceau peut-être un peu moins. Il s'agit de Bob Marley and the Wailers. Le morceau s'appelle Go Jimmy Go. Bob Marley et les Wailers, le morceau s'appelle Go Jimmy Go.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Lucky, je t'aime.
C'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Quelques bons plans comme ça, histoire d'eux, et puis une interview qu'on va écouter en tout cas, tout ou partie. Ce soir, à partir de 18h30, il y a les 106 expériences du côté du 106 à Rouen. C'est également prévu dans le cadre d'une warm-up du festival Les Pluriels, le festival organisé par les élèves de CMOPC de la faculté de Rouen. Renseignez-vous, ça se passe à partir de 18h30 ce soir au 106. Demain, à partir de 19h30 au Macao Bar, il y a les rencontres avec les salopettes, notamment dans le cadre de ces journées organisées pour la reconnaissance des droits des femmes. Le Macao Bar, je dis pas de bêtises, ça se passe à Rouen, tout à fait, ça, c'est du côté de Rouen. Et on en a parlé hier, justement, les journées pour la reconnaissance des droits des femmes. Nous étions avec le président et la directrice d'accueil service hier pour parler de trois jours qui ont lieu ici à Évreux, avec un spectacle, on le rappelle, demain soir Du côté du Pré du Béléba, il y a jeudi après-midi des rencontres débats autour du sexisme au travail. Ça se passe du côté de la Chambre de commerce et d'industrie, jeudi après-midi à 14h. Et vendredi soir, du côté de la maison de quartier Place Kennedy à la Madeleine, il y a le spectacle de danse Racine pour vous sensibiliser à ces questions. La dernière chose, et on va en écouter un petit extrait parce qu'on l'avait eu au téléphone il y a un mois de ça, je vous en parlais tout à l'heure, la marche des enfants proposée par le collectif Le K. Nous étions au téléphone il y a quelques semaines avec Simon Falguer, le metteur en scène de ce collectif. Le spectacle La Marche des Enfants du côté du théâtre de Grand Forum cet après-midi pour les jeunes publics et à 20h du côté de Louviers, on retrouve Simon Falguer.
Simon Falguer, du membre du collectif du K, vous êtes auteur et metteur en scène, si je ne dis pas de bêtises, au sein du collectif. Avec vous, on va parler notamment d'un spectacle qui est joué ce mardi. Le spectacle s'appelle La Marche des Enfants. Avant d'en parler un petit peu plus en détail et de donner envie à nos auditeurs de se rendre à ce spectacle, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le collectif du K, comment et avec quelle envie il s'est constitué et formé?
Alors, c'est une longue histoire, et c'est une longue histoire normande, puisque nous étions, pour la majorité, en classe théâtre au lycée Léopold Sédar Senghor à Évreux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et ensuite, on est monté faire nos études sur Paris. Et très vite, il y a eu l'envie de monter une troupe, et plus précisément même un collectif, d'abord pluridisciplinaire et qui ensuite s'est vraiment recentré sur le théâtre. Et après avoir monté un spectacle autour d'une œuvre classique, Le Songe d'une été, je me suis recentré sur l'écriture et j'ai monté avec cette troupe une dizaine de pièces que j'ai écrites. Et La Marche des Enfants, particulièrement, c'est une pièce que j'avais écrite il y a pas mal de temps, en 2011. J'ai reçu un aide du Centre National du Théâtre à cette époque-là. Et ensuite, pendant longtemps, on l'a gardé dans des tiroirs et on s'est dit, quand on commençait à devenir un peu professionnel, qu'on la ressortirait et qu'on la montrait. Donc voilà, ça a été un travail de 2 ans. Et ce collectif, pour dire aussi, il s'est beaucoup créé au départ dans les squats, dans le musée des squats et des lieux alternatifs sur Paris. On a fait un théâtre... un peu alternatif pendant pas mal d'années. Et ensuite, on est revenu sur notre terre natale, sur le département de l'Eure, où on a beaucoup joué dans les milieux ruraux et dans les théâtres du département.
Alors, pour revenir sur... Il y a pas mal d'éléments là dans ce que vous nous dites là, et notamment sur cette rencontre qui, on l'a bien compris, s'est passée il y a pas mal d'années maintenant, ouais. Du côté du lycée, sur les bancs de l'école, entre guillemets. Qu'est-ce que ça permet maintenant que vous avez grandi, évolué, chacun un peu tracé vos routes, et en même temps, à travailler ensemble sur des spectacles et au sein de ce collectif, de cette troupe? Qu'est-ce que ça permet d'avoir une histoire comme ça, un vécu sur plusieurs années, de s'être rencontré entre guillemets très jeune?
Beaucoup de choses. D'abord, ça fait qu'est-ce que ça permet, je sais pas trop, mais c'est une relation presque de famille. On se connaît vraiment depuis très très longtemps, et puis il y a une chose aussi, c'est qu'on a beaucoup traversé ensemble, quoi. Beaucoup traversé des galères, beaucoup appris ensemble, et voilà, je crois que ce sont des acteurs, alors tous ne sont pas du lycée, il y a aussi des acteurs un peu d'autres horizons qui nous ont rejoints sur ces 10 années, mais je crois que ce sont des acteurs aussi qui maintenant connaissent très bien ma démarche poétique, ma langue, ma façon de travailler, donc on travaille plus vite aussi.
Vous évoquiez aussi le fait d'avoir évolué dans des squats, dans des lieux qui sont pas forcément les grands lieux de la culture et les théâtres traditionnels. Et est-ce que ça aussi, ça a contribué à faire évoluer votre façon de travailler, votre façon d'écrire, et peut-être un certain regard sur le monde?
Un certain regard sur le monde, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ça, je pense que d'avoir beaucoup travaillé dans les milieux alternatifs, ça nous a donné, ça nous a donné un style. Ça, je pense beaucoup. C'est-à-dire, pas facile à expliquer, mais On a beaucoup appris ensemble et dans tous les domaines. C'est-à-dire que comme j'étais très... La chose la plus importante pour moi, c'était le principe de troupe. Je voulais que tout le monde fasse tout. Fasse les costumes, fasse les décors, reçoive le public, fasse la soupe pour recevoir le public. Quelque chose qui est assez proche d'aventures comme le Théâtre du Soleil, par exemple. Chez qui on a joué d'ailleurs un spectacle qui s'appelait La Nef des Fous. Donc ça, c'est quelque chose de très très important et qu'on a beaucoup beaucoup appris dans le milieu des squats et des lieux alternatifs. Et puis après, c'est une façon aussi, les lieux alternatifs, c'est une façon de... comment dire ça? De créer... c'est-à-dire, pour revenir sur la marche des enfants, c'est une ode à la vie poétique. Ce sont des enfants qui s'échappent de chez eux pour espérer vivre une vie poétique. Et je crois que ce qu'on a vécu dans les milieux des squats et les milieux alternatifs, c'était vraiment de cet ordre-là. Alors maintenant, on grandit, donc c'est en train de changer. On se professionnalise, on rentre plus dans un circuit de théâtre institutionnel. Mais on a ce passé-là.
Vous me faites une transition un peu toute trouvée avec la suite pour revenir un petit peu sur le propos de la marche des enfants. L'idée, moi je n'ai évidemment pas vu le spectacle, pas encore. Mes questions peuvent être un petit peu naïves et je tâtonne. Vous parliez de tracer une voie poétique pour ces enfants-là qui sont mis en scène dans le spectacle. On est autour de cette idée-là. J'imagine qu'il y a un regard et un propos autour du rapport à l'enfance, peut-être aussi du passage à l'adulte. Est-ce que le propos, c'est par exemple pour devenir adulte, il faut trouver cette voie poétique? Est-ce qu'on est autour de ces interrogations là?
Ouais, on est autour de ces interrogations là. Après, c'est vraiment ça questionne beaucoup le rapport des enfants avec les parents et avec aussi la société de l'école. Ce sont les deux grandes lignes de départ. Et ensuite, c'est montrer comment des enfants sont touchés par la puissance de la poésie et décident de s'enfuir dans une fuite et dans une révolte qui est d'ailleurs assez violente. C'est une pièce que j'ai écrite à 19 ans et que donc j'ai écrite à un moment où il était important pour moi d'écrire le fait de partir et de tuer ses parents. Et dans la pièce, au départ d'ailleurs, les enfants tuaient leurs parents. Ils s'échappaient puis ils revenaient à la ville pour tout mettre à feu et à sang. Et c'est une pièce que maintenant je monte, maintenant j'ai 28 ans. Donc 9 ans plus tard, je la monte. Et le rapport avec les parents a bien changé en 9 ans. C'est-à-dire que j'ai maintenant un rapport à l'image de mes parents beaucoup plus tendre. Et je crois qu'on est tous passés par là. D'abord par un acte d'émancipation violent, et ensuite par un acte de tendresse face à la vieillesse de ses parents. Ce qui fait que la pièce, en fait, a changé. J'ai beaucoup réécrit sur les 9 ans, avec la troupe, pour en changer un peu le contenu. Donc maintenant, ce n'est plus une révolte violente où les enfants vont tuer leurs parents, mais c'est un adieu. C'est un adieu pour vivre une vie qui n'est pas une vie normale. Voilà, pour partir sur les routes et pour dire des mots de théâtre. C'est pas une vie normale. Et les enfants rencontrent dans leur fuite un personnage que j'interprète et qui s'appelle Monsieur Cagot et qui est une sorte de personnage qui représente ce qu'est la puissance politique. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte.
Si, si. Et ce que je comprends, ce que je retiens aussi, c'est que voilà, en presque 10 ans, au moment de l'écriture jusqu'à la mise en scène, le travail, enfin, il y a eu toutes ces années-là qui ont permis, j'imagine, de maturer le projet. On est passé, si je résume un petit peu, à un rapport assez tendu aux adultes, aux parents, à quelque chose de plus apaisé. Et j'en reviens un petit peu à ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est pas aussi ça, devenir quelque part adulte? Réussir à avoir un regard et avant tout sur ses parents mais aussi sur le monde beaucoup plus apaisé et moins dans le rapport conflictuel à l'autre. Est-ce que j'imagine une idée autour de ça?
Oui, il y a une idée autour de ça, enfin il y a une idée autour d'une tendresse. Et en même temps, je crois que c'est que ce spectacle est quand même un acte poétique et politique pour appeler à une résistance, tout de même. C'est-à-dire que ces enfants ne font pas le choix de refaire, de prendre le chemin tout tracé, quoi. Ils font le choix de vivre poétiquement, c'est-à-dire, parce que c'est un grand mot, vivre poétiquement, mais à la fin du spectacle, ils disent comme des sortes d'aphorismes qui, pour moi, symbolisent vraiment ce vers quoi ils tendent. Parler avec le chien, s'asseoir au bord d'un fleuve et regarder le courant qui passe, oublier ses amis, mettre une graine en terre et tous les jours aller voir si ça pousse. Ce genre de choses toutes simples, mais qui, je crois, dans le monde actuel, sont des actes de résistance. Et donc des actes de résistance poétiques. Mais pour arriver à cette finalité-là, ils passent par plein de deuils. Le deuil de leurs parents, en les quittant, en leur disant adieu. Et même le deuil de leur apprentissage. Même le deuil de leur apprentissage poétique, même l'apprentissage poétique, il faut en faire le deuil. Pour qu'il ne reste plus que eux-mêmes face au monde. C'est un peu une pièce sur le, en fait, au fur et à mesure, mais c'était pas ça au départ, mais au fur et à mesure que l'on a créé cette pièce, c'est un peu une pièce sur le dépouillement. Et sur le deuil. C'est pas très gai. C'est pas une pièce très.
Voilà, l'intégralité de l'échange était un poil plus long, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de tout vous diffuser. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'échange en podcast sur le site de la radio Principe Actif. Bien évidemment, sachant que nous l'avions déjà diffusé il y a à peu près un mois, cet échange, au moment où le spectacle était joué du côté du Grand Quevilly. À retrouver donc ce soir au Théâtre du Grand Forum, à 20h, du côté de Louviers, le collectif du cas et le spectacle La Marche des Enfants. Quelques secondes pour vous annoncer le programme du jour sur nos deux antennes, la Bulle HDR à partir de 9h, la rediff de Cafro à partir de 10h, 13h10 Carbone Zéro, le Blabla Mix programme commun aux deux antennes 17h-18h, l'apéro Soul et Tropique 18h-19h, l'Esprit de l'Escalier 19h-20h, Upton Madness 20h-22h et 23h30 GBGB, ça c'était pour HDR. Sur Principe Actif, vous retrouvez le Flash RFI, la rediff à 15h, le Blabla Mix 17-18, Tropical Air Mix 18-19, la Calier Del Ritmo 19-20h et le Laboratoire à partir de 20h. Vous retrouverez la Mideuse jeudi matin. Ciao, ciao, ciao. Une bonne journée à l'écoute de nos programmes.